Chapitre 39. Doucement maintenant, souffla Callan à sa monture dont un sabot venait de glisser.
Recule, mon brave Nick, recule doucement.
Au pied de la pente dans son dos, l'inquisitrice entendait les bruits de ses poursuivants. Un homme, sans doute un officier de Dara, beuglait à ses soldats de ne pas la laisser s'enfuir. Hennissant sous l'effort, les chevaux gravissaient inexorablement la déclivité. Dès qu'ils arriveraient sur la zone plate qu'elle avait atteinte, ils se lanceraient de nouveau au galop. Callan tira gentiment sur ses rênes. Nick leva prudemment les pattes et recula sur sa propre piste entre les pins couverts de neige. La jeune femme retrouva la longue branche au bout fourchu qu'elle avait taillée au couteau avant d'entrer dans le camp. Elle était toujours plantée verticalement dans la neige, là où elle l'avait laissée, près de l'épicéa au tronc jumeau. Elle s'en empara et commença à pousser les branches lestées de neige. Son épaule droite la fit grimacer de douleur. Le choc, quand la lance s'était cassée, avait été très violent. En reculant entre les arbres, toujours sur sa propre piste, Callan garda sa branche levée et continua à secouer les arbres. Libérées de leur charge, les branches se redressaient et dissimulaient presque complètement le passage entre les troncs. Plus important encore, la neige qui dégringolait sur le sol couvrait entièrement ses traces, et le phénomène semblait tout à fait naturel, comme si le vent était responsable de la chute des paquets de neige. Callan adressa des remerciements muets à Richard qui lui avait tout appris au sujet des pistes, résolu à faire d'elle une authentique forestière. Il lui manquait tellement. À coup sûr, pensa-t-elle, il n'approuverait pas qu'elle utilise ses enseignements pour prendre des risques insensés. Mais il n'était pas question que ses empreintes conduisent les bouchers de Riggs jusqu'aux soldats de Galéa. Si l'un de ses poursuivants revenait avertir les autres, les jeunes héros se feraient massacrer. Mais si aucun ne se remontrait, il était douteux qu'on en envoie d'autres de si tôt. Même si elle se trompait, ce serait trop tard pour Riggs. Dans l'école qu'elle emprunterait, le vent soufflait sans cesse, retournant la neige comme de la crème fouettée. Un deuxième contingent d'ennemis n'y retrouverait pas sa trace. Des bruits de sabots étouffés par le tapis de neige ramenèrent Callan à des préoccupations plus immédiates. Les cavaliers avaient atteint le terrain plat et galopaient de nouveau. Sans s'affoler, l'inquisitrice continua à reculer entre les arbres en secouant les branches. Ses poursuivants approchaient. Callan se pencha sur l'encolure de Nick et lui parla à l'oreille.
« Arrête-toi maintenant. Ne bouge plus et ne hennis pas. Voilà, comme ça, exactement. Brave Nick. »
Les soldats l'avaient rejointe. Galopant sur sa piste, en face d'elle, ils traversèrent l'écran de végétation sur sa gauche à moins de 20 pas d'elle. Callan retint son souffle. Elle entendit le bruit sourd des sabots quand ils martelèrent la pente glacée cachée derrière les arbres. Un leurre qui conduisait le long d'un ruisseau dont l'eau, quand elle n'était pas gelée, dévalait un peu plus loin une pente vertigineuse. Quand les cavaliers débouleraient près du ruisseau, ils auraient moins de 20 pas pour arrêter leur monture avant de basculer dans le vide. Les berges du cours d'eau étant également gelées et vallonnées, ce qui compliquait les choses, ils n'auraient pas une chance de s'en tirer. Les premiers hommes arrivèrent au grand galop. L'inquisitrice entendit les jambes de leurs chevaux se briser net quand ils tirèrent sur les rênes pour tenter de les arrêter. Leurs sabots pris dans des crevasses glissantes, les malheureux animaux furent entraînés en avant par leur vitesse acquise, leur poids et celui de leurs cavaliers. Les soldats suivants percutèrent leurs camarades et les poussèrent en avant. Peu habitués à monter à cru et en l'absence des morts à cuillère dont ils équipaient d'habitude leur monture, il leur fut impossible de s'arrêter. Les derniers sautèrent de leurs chevaux en voyant ce qui se passait devant eux. Emportés par leur élan, ils n'en basculèrent pas moins dans le vide, piétinés au passage par leur propre monture. Immobile sur sa selle, son masque d'inquisitrice plus impassible que jamais, Callan écouta les cris de terreur des soudards et des pauvres équidés soudain transformés en une cascade de chair et d'os promise à un atterrissage mortel. Certains hommes, remarqua-t-elle, roulaient assez lentement sur le toboggan de glace pour tenter de trouver des prises. Hélas pour eux, il n'y en avait pas. Quand le silence revint, la jeune femme mit pied à terre et approcha du bord du gouffre. Il ne restait plus un ennemi ni un cheval au bord de la cascade de glace. Et sur ce qu'elle voyait du toboggan à la pâle lueur de la lune, des traînées de sang témoignaient qu'il n'y aurait sûrement pas de survivants au fond du gouffre. Alors qu'elle se détournait, Callan entendit des gémissements. Son couteau dégainé, elle avança et se pencha prudemment pour sonder l'abîme. Un soldat avait réussi à s'accrocher à une grosse racine affleurante. Suspendu à l'aplomb d'un gouffre de 1000 pieds, il tentait de caler ses pieds dans la glace. N'y parvenant pas, il pédalait comiquement dans le vide. Callan repéra une souche au bord de l'abîme et s'y accrocha d'une main. Se penchant davantage, elle vit que le type, en uniforme qu'elle tient, claquait des dents tant il avait froid.
« Aidez-moi, par pitié »
cria-t-il quand il aperçut la jeune femme.
« Je vous en supplie !»
Callan regarda sans frémir ce jeune garçon qui n'avait sans doute même pas son âge. Ses grands yeux noirs devaient faire chavirer le cœur des belles dans son pays natal. Mais il s'était posé sur les jeunes filles des Binicia. Elles avaient dû frissonner pour de toute autre raison.
« Au nom des esprits du bien, aidez-moi !»«
Comment t'appelles-tu, soldat ?»«
Ouan. Je me nomme Ouan. Bon sang, ne me laissez pas comme ça !»
L'inquisitrice cala son pied droit dans une racine, assura sa prise sur la souche et tendit sa main libre à Ouan, mais pas assez près pour qu'il la saisisse.
« Je vais t'aider, Ouan, mais il y a une condition. J'ai juré d'être sans pitié et je ne reviendrai pas sur ma parole. Si tu prends ma main, je te toucherai avec mon pouvoir. Tu m'appartiendras jusqu'à ton dernier souffle. C'est ta seule chance de survivre, comprends-tu ? Et si tu penses me faire basculer dans le vide avec toi, oublie ça tout de suite. Tu n'auras pas le temps car tu seras mien dès que nos mains se toucheront. »
Callan tendit un peu plus le bras.
« À cet instant, Ouan, ta vie se termine d'une façon ou d'une autre. Si ton corps ne meurt pas aujourd'hui, ton esprit disparaîtra à jamais. Tu deviendras mon jouet. »
« Pitié, aidez-moi sans me toucher avec votre pouvoir. » « Je jure que je vous laisserai partir en paix. Il me faudra des heures pour retourner au camp à pied. Quand j'y arriverai, vous serez déjà loin. Ayez pitié, je vous en prie. »«
Ae Binicia, combien de malheureux t'ont supplié de les épargner? En as-tu écouté un seul ?»«
Je suis la mère inquisitrice, et j'ai déclaré une guerre sans merci à l'ordre impérial. Ce serment tiendra jusqu'à ce que j'aie abattu le dernier d'entre vous. À toi de choisir, Ouan. » « La mort ou mon pouvoir. Dans tous les cas, l'homme que tu étais disparaîtra. »« Les chiens des Binicia ont eu ce qu'ils méritaient. Je préférais prendre la main du gardien qu'être touché par ton pouvoir, espèce de monstre. Les esprits du bien ne voudraient plus de moi si j'étais souillé par ta magie. Que le gardien veille sur toi, inquisitrice !»
Sur cette malédiction, Ouan lâcha sa racine et bascula dans le vide. Sur le chemin du retour, Callan réfléchit aux propos que lui avaient tenus Riggs, Karch et Slagle. Elle pensa aussi aux créatures magiques qui vivaient dans les contrées du milieu. Dans le royaume où s'étendaient de vastes plaines entourées d'antiques forêts, les flammes nuits adoraient se rassembler au crépuscule pour danser comme de joyeux feux follets au-dessus des buissons et des fleurs sauvages. Des nuits entières, allongées dans l'herbe, Callan les avait admirées, parlant avec elles des espoirs et des rêves communs à toutes les formes de vie. Et de l'amour, bien sûr. Dans les eaux du lac Long, elle avait rencontré des êtres si translucides, tels du verre liquide, qu'on avait du mal à les voir. Sans jamais avoir conversé avec eux, elle les avait vus émerger de l'onde la nuit pour prendre des bains de lune sur les berges semées de rochers. Des créatures privées du don de la parole, mais pas incapables de communiquer, qu'elle avait comprises et juré de protéger. Ailleurs, elle avait rencontré les hommes-arbres, dont les murmures résonnaient encore à ses oreilles. Communiquer avec eux avait été une expérience magnifique et effrayante, une tempête émotionnelle, pourtant étrangement douce et paisible. Liés les uns aux autres par leurs racines qui se rejoignaient sous terre, les hommes-arbres parlaient d'une voix unique, comme si la notion d'individu chez eux n'existait pas. Pourtant, dès qu'on leur promettait de dérisoires faveurs, tous avaient un nom bien distinct à murmurer à l'oreille de leurs interlocuteurs. Une collectivité qui était à la fois le tout et un ensemble de parties. Dans leur royaume, Abattre un arbre revenait à infliger la douleur de sa fin à tous les autres, incapables, même pour se protéger, de se couper de la connexion. Ainsi, le plus banal bûcheron devenait pour eux un tueur en série. Callan les avait vus souffrir et leur chagrin aurait arraché des larmes aux étoiles. Il existait bien d'autres créatures magiques et des êtres humains touchés par la grâce du pouvoir. Parfois, il était difficile d'établir une frontière entre les gens et les animaux. Des humains à demi autre chose, ou des bêtes en partie humaines? Quelle importance, puisque tous étaient délicieusement étranges, doux et d'une timidité touchante. Dans les grottes hurlantes, des formes de vie parmi les plus simples qui soient, pouvaient aider les voyageurs curieux de contempler leur nid à voir à travers d'épaisses strates de roches. À l'autre bout de l'échelle, des peuples comme les hommes d'Adobe maîtrisaient une variante élémentaire de magie destinée à un seul et unique usage. Toutes ces créatures, et des myriades d'autres, étaient sous la responsabilité de la mère inquisitrice. Les protéger et préserver leur territoire faisait partie intégrante de sa mission. Peut-être en était-ce même l'essentiel. Riggs avait parlé de « créatures crépusculaires », le nom que les fanatiques du sang de la déchirure leur donnaient parmi d'autres plus insultants. Sans doute parce que beaucoup de ces êtres ne se montraient que la nuit. Les associant aux ténèbres, les membres de cette organisation, prompts à s'effrayer, les tenaient pour des agents du gardien. Selon le sang de la déchirure, la magie était le vecteur de l'influence du gardien sur le monde des vivants. Aussi déraisonnable et borné que les autres humains, ces fondamentalistes croyaient avoir pour mission de renvoyer dans le royaume des morts tous ceux qu'ils prenaient pour des sbires du gardien. En clair, toute personne qui ne partageait pas leurs opinions. Dans certains royaumes, cette secte était hors la loi. Ailleurs, comme en Nicobarez, la couronne les encourageait et les finançait. Riggs avait peut-être raison sur un point. Elle aurait sans doute dû se servir de son pouvoir pour mettre un terme aux agissements d'hommes de cet acabit. Mais le Conseil, depuis toujours, se gardait d'imposer ses vues à tout un chacun. La diversité était une des forces des contrées du milieu, et sûrement la source principale de leur beauté. Dans ce foisonnement, un peu de laideur s'avérait inévitable. Encore fallait-il ne pas oublier que ce qui semblait laid d'un côté des monts Rang Shada pouvait paraître superbe de l'autre. L'autonomie restait le maître mot pour chaque pays, tant qu'il n'agressait pas militairement ses voisins. Et s'il fallait, pour que la splendeur fleurisse, laisser pousser quelques mauvaises herbes, c'était un prix acceptable à payer. Mais pour le Conseil, maintenir l'équilibre entre deux exigences contradictoires, forcer les pays à collaborer sur certains points et les laisser libres sur d'autres, tenait souvent de la haute voltige. Là encore, Riggs avait peut-être raison. Certains peuples soumis à des dirigeants cupides ou incompétents souffraient sans aucun espoir de voir les choses changer un jour de l'intérieur. Bien sûr, d'autres royaumes, plus petits et plus avisés, n'avaient pas à redouter d'être conquis par leurs voisins plus puissants. Mais si un pouvoir central était venu au secours des pays malchanceux, les choses ne seraient-elles pas allées encore mieux? Hélas, quand on instaurait un ordre universel, il étouffait les autres formes possibles de société. Un drame, si l'une d'entre elles laissait libre d'évoluer, avait fini par se révéler un facteur de progrès pour le monde entier. Bref, le règne de l'ordre impérial, aussi séduisant qu'il pût paraître, revenait à rétablir l'esclavage. En approchant de sa destination, Callan eut la surprise d'être intercepté par des sentinelles postées bien plus près les unes des autres et assez loin du camp pour avoir le temps de donner l'alerte. À l'évidence, Chandalen, Prindin et Tossidine n'avaient pas chômé. Bien entendu, les Galéens s'écartèrent et la saluèrent dès qu'ils la reconnurent. L'aube pointait. Sous la couverture de nuages, il promettait de faire un peu moins froid que la veille. Morte de fatigue, Callan avait plusieurs fois failli s'endormir sur sa selle. Voir des hommes s'agiter dans le camp l'attira aussitôt de son apathie. Il restait tant de choses à faire. Chandalen, Prindin, le capitaine Ryan et le lieutenant Hobson parlaient avec un groupe de soldats quand ils aperçurent l'inquisitrice. Ils vinrent la rejoindre au pas de course, slalomant entre les hommes qui s'affairaient déjà comme des fourmis. près des chariots, Tosidine étincelant dans son manteau en peau de loup blanc, donnait une leçon de maniement de la lance à une escouade commandée par le lieutenant Sloan. Callan mit pied à terre devant les quatre hommes et ne put retenir un soupir de lassitude. Autour d'elle, les soldats continuèrent à vaquer à leurs occupations, non sans lui jeter des regards curieux à la dérobée. Les deux hommes d'Adobe et leurs compagnons, plus directs, écarquillèrent carrément les yeux.
« Que regardez-vous comme ça ?»
lâcha Callan agacé.
« Mère inquisitrice, »
dit Ryan,
« vous êtes couverte de sang, seriez-vous blessée ?»
Callan baissa les yeux sur son manteau qui n'avait plus rien de blanc. Se touchant les joues, elle sentit sous ses doigts des traînées de sang coagulé. Ses cheveux aussi en étaient empoissés.
« Aucun problème, »
dit-elle calmement.
« Je me porte comme un charme. »
Shandalen et Prindine soupirèrent de soulagement.
« Et le sorcier ?»
demanda Hobson.
« Vous l'avez vu ?»«
Une bonne partie de ce sang est le sien, lieutenant. »«
Combien d'autres hommes as-tu tué ?»
demanda Shandalen admiratif.
« Désolé, mais j'ai été trop occupé pour compter. Tout compris, ça doit faire une bonne centaine si on y ajoute les incendies. Le sorcier est mort, c'est l'essentiel. Deux de leurs chefs ont également péri et deux autres sont salement amochés. »
Ryan et Hobson blêmirent de stupeur.
« Je m'étonne que tu nous aies laissé quelques types à tuer, mère inquisitrice, »
dit Shandalen rayonnant. Callan ne lui retourna pas son sourire.
« Il en reste beaucoup trop, et c'est Nick qui a fait le plus gros du travail. »
« Je vous avais dit qu'il ne vous décevrait pas, mère inquisitrice !»
triompha Hobson.
« Il m'a été plus utile que les esprits du bien. Aujourd'hui, je lui dois la vie. »
Sans crier gare, Callan s'agenouilla devant les deux officiers galéiens et inclina la tête.
« J'implore votre pardon, »
dit-elle en leur prenant la main.
« Même si vous ignorez comment accomplir ce qui doit être fait, vous avez refusé mes ordres au nom de l'intérêt supérieur des contrées du milieu. » « Un très grand courage, vraiment, et vous aviez raison. »
Elle leur embrassa la main.
« Vos intentions étaient louables et vos cœurs vertueux. Je loue votre sens du devoir et j'espère que vous m'accorderez votre pardon. »«
Mère inquisitrice !»
souffla Ryan.
« Relevez-vous par pitié, tout le monde nous regarde. »
« Pas avant d'avoir reçu votre pardon. Tous doivent savoir que vous avez bien agi. »
« Mère inquisitrice !» Vous n'aviez pas bien jugé la situation, mais vous pensiez à votre sécurité.
Callan attendit, augmentant la confusion du jeune homme.
Très bien, je vous pardonne, mais ne recommencez pas, d'accord?
Callan se releva, leur lâcha les mains et eut un sourire sans joie.
À condition que ce soit la dernière fois que vous m'ayez désobéi, capitaine.
Bien sûr que non. Enfin, je veux dire, bien sûr que oui. Nous ferons tout ce que vous nous direz, mère inquisitrice.
J'avais compris dès votre première phrase, capitaine. À présent, nous avons du pain sur la planche avant de pouvoir attaquer.
Nous ?
Explosa Shandalen.
Nous allons leur expliquer deux ou trois choses, puis nous reprendrons le chemin d'Aïdindril. Mère inquisitrice, tu as déjà pris trop de risques. Il faut...
Je dois vous parler à tous les trois.
Coupa Callan.
Fais venir Tosidine. Capitaine, réunissez les hommes, y compris les sentinelles. J'entends m'adresser aussi à eux. Veuillez attendre ici avec vos soldats et me préparer une tente. Pendant les préparatifs, quelques heures de sommeil ne me feront pas de mal. »
Alors que Prindine allait chercher son frère, l'inquisitrice gagna un coin tranquille avec Shandalen. Elle prit la parole dès que les deux autres chasseurs les eurent rejoints.
« Le peuple d'Adobe a des pouvoirs magiques. »«
C'est faux !»
lâcha Shandalen.
« Tu te trompes. » Vous n'en avez pas conscience parce qu'il en a toujours été ainsi et parce que vous ne connaissez pas les autres peuples. Mais vous pouvez communiquer avec les esprits de vos ancêtres. Pour ça, il faut des pouvoirs. La magie n'est pas une force étrange et dangereuse, mais une composante de la vie pour certains êtres et certaines créatures.
« D'autres peuples communiquent avec leurs ancêtres ?»
argua Shandalen.
« C'est vrai, mais ils sont très rares. » Pour ceux qui ne le peuvent pas, parler avec les morts passe pour une magie terrifiante. Nous savons que c'est faux, mais nous n'aurions pas une chance de les convaincre. Les gens s'accrochent à ce qu'on leur a enseigné. La plupart ont appris que communiquer avec les morts était maléfique.
Les esprits de nos ancêtres nous aident,
dit Prindine,
et ils ne nous ont jamais nui.
Voyant son trouble, Callan lui posa une main sur l'épaule.
Je sais. C'est pour ça que j'interdis au grand royaume de vous empêcher de vivre comme vous l'entendez.
Les peuples qui contactent les défunts détiennent le même pouvoir que vous. D'autres personnes ou créatures ont des dons différents. Vous me suivez ?
Oui, mère inquisitrice, répondit Ossidine.
L'important n'est pas que vous pensiez contrôler une magie, mais que d'autres le croient.
Comme ils ont peur du pouvoir, ils vous jugent mauvais.
Callan tendit un bras vers les montagnes.
Les soldats qui campent derrière ces pics luttent pour une cause qu'ils croient juste.
Ils veulent régner sur les contrées du milieu et imposer une unique façon de vivre.
Pourquoi voudraient-ils nous diriger ?
Demanda Prindin.
Nous ne sortons jamais de chez nous et nous ne possédons rien qui puisse les intéresser.
Tu as raison.
Mais ils pensent avoir pour mission de tuer ceux qui ont des pouvoirs, et vous faites partie du lot.
Callan se tourna vers Shandalan. Si on ne les abat pas jusqu'au dernier, à l'instar des Jokopos, ils détruiront votre village, comme ils ont rasé Ebinicia.
Les trois hommes prirent le temps d'assimiler ces propos.
Tueront-ils aussi les autres peuples qui vivent comme nous ?
Demanda enfin Shandalan.
Ceux qui refusent les étrangers ?
Ils les massacreront, oui. J'ai parlé à ces soldats, Shandalan. Ils sont fous, comme les Bantak et les Jokopos. Peut-être ont-ils aussi reçu la visite des esprits du mal. En tout cas, nous ne leur ferons pas entendre raison, car ils pensent que nous sommes les suppôts du gardien.
Ils tueront sans pitié, et vous avez vu ce qu'ils ont fait à cette ville.
Je dois aller en Aïdindril, lever une armée. Les conseillers s'en occupent sûrement déjà, mais j'entends m'assurer que tous mesurent la gravité de la menace.
Pour le moment, nos jeunes amis sont la seule force en mesure de s'opposer à ce fléau.
Avant que je puisse envoyer de l'aide, d'autres cités seront mises à sac. Et par la terreur, ces bouchers risquent de recruter beaucoup de nouveaux hommes. Sans parler des opportunistes qui se mettront comme toujours du côté du plus fort.
En attendant l'arrivée des renforts, ces gamins qui sont prêts à se battre peuvent empêcher d'autres pillages et d'autres massacres. Mais ils ont besoin de nos leçons. Mes amis, nous devons livrer la première bataille avec eux pour leur donner confiance et être sûrs qu'ils sauront continuer. Ensuite, nous poursuivrons notre chemin.
« Tu invoqueras tes éclairs pour nous aider ?»
demanda Shandalan.
« Hélas, non. J'ai essayé dans le camp ennemi, mais ça n'a pas marché. Je crois que cette magie fonctionne seulement quand je peux protéger Richard. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ainsi. »« Alors, comment as-tu tué tous ces hommes ?»
s'étonna Shandalan. Callan tapota son épaule là où était fixé le couteau en os.
« En agissant comme ton grand-père l'a appris à ton père, qui te l'a à son tour enseigné.
Je n'ai pas joué selon leurs règles. Ces soldats aiment boire et l'alcool ralentit leurs réflexes. Il embrume leurs esprits. »«
Ces soldats-là aussi aiment l'alcool, » dit Ossidine. « Ils ont un chariot plein de tonneaux. Nous leur avons interdit de boire hier soir et ils n'étaient pas contents du tout. Ils prétendaient que c'était leur droit. » »«
Ils croient aussi malin de se jeter en plein jour sur un ennemi 10 fois supérieur. »
dit Callan.
La preuve qu'ils ont besoin de nos lumières.
Mais ils sont têtus comme des mules,
grogna Prindin.
Et ils n'arrêtent pas de discutailler. On dirait qu'ils savent tout et qu'ils ne veulent rien changer à leurs habitudes.
Pourtant, nous devons réussir à les rendre efficaces, dit Callan. J'ai besoin de vous pour y arriver, mes amis. Sinon, beaucoup de gens, y compris des hommes d'Adobe, mourront sous les coups de ces bouchers. Je dois conduire la première bataille.
Shandalan ne broncha pas, muet comme une tombe. Les deux frères réfléchirent un long moment.
« Nous t'aiderons, » dit enfin Prindin. « Mon frère et moi sommes à ton service. »«
Merci, mais tu ne peux pas décider à la place de Shandalan. C'est votre chef. »
Prindin et Ossidine regardèrent le chasseur qui ne quitta pas Callan des yeux.
« Très bien, »
lâcha-t-il enfin, exaspéré.
« Tu es si têtue, femme, que tu te feras tuer si nous ne sommes pas là pour te mettre un peu de plomb dans la cervelle. Nous irons avec toi massacrer ces bouchers. »«
Merci, Shandalan, »
dit l'inquisitrice, visiblement soulagée. Elle se pencha, ramassa une poignée de neige et s'en servit pour se nettoyer le visage.
« À présent, je dois aller donner des instructions à ces gamins. »
Elle se frotta les mains pour les débarrasser de la neige.
« Avez-vous dormi la nuit dernière, mes amis ?»«
Un peu. »
répondit Shandalan.
Parfait. Après mon petit discours, j'irai me reposer quelques heures. Commencez par leur montrer comment voyager sans chariot. Ils doivent devenir forts comme vous. Cette nuit, nous commencerons à frapper nos ennemis.
Cette nuit,
répéta Shandalan, les poings serrés et l'air féroce.